Ici Marthe Saint-Laurent, bienvenue à Terre de Femmes. Le 3 décembre dernier, le gouvernement annonçait un investissement de plus de 180 millions de dollars pour intensifier ses efforts de lutte contre la violence conjugale. Un plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque, de dangerosité et pour accroître la sécurité des victimes. Le thème d'aujourd'hui est « Centre d'hébergement pour sortir les femmes de la violence ». Avec nous pour en parler, Marie-Christine Plante, adjointe à la direction de Carrefour pour elle, un centre d'hébergement. Elle est aussi chargée de cours à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Mais nous débutons l'émission avec Nathalie Trottier, entrepreneure, conférencière et artiste peintre. À 8 reprises, elle est allée dans une maison, dans un centre d'hébergement, des centres d'urgence. Donc aujourd'hui, elle est porte-parole de Transit Secours dans la région de Montréal. Elle est ici pour nous parler de son expérience. Restez avec nous.
Sans roi, plus jamais je ne serai proie. Désormais, je serai moi. C'est la fin des loups et des larmes. J'expire enfin et dans le calme, j'inspire le froid de Ketchikan.
Nous écoutions Alaska d'Andréane Mallette. En plus d'être porte-parole de Transit Secours, elle est membre du CA de la Maison d'hébergement L'Égide. Elle fait aussi partie du comité d'expertes de vécu à Trajectvie, trajectoire de violence conjugale et de recherche d'aide à l'Université de Montréal. Eh bien, tout un CV. Bonjour Nathalie Trottier, bienvenue à Terre de Femmes.
Bonjour Marthe, merci pour l'invitation.
Oh, merci d'avoir accepté. C'est un immense plaisir, en plus tu es avec nous dans nos studios. Nathalie, tu as vécu de la violence physique conjugale durant 25 années.
Oui, oui.
Et ça commence pas, comme ça, la violence conjugale. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Ça commence par la violence psychologique, après ça. Est-ce que tu veux nous parler juste un petit peu brièvement, comment, c'est quoi les étapes?
Bien, en fait, c'est sûr que la violence conjugale, les violences physiques, ça commence pas du jour au lendemain. Mm-hmm. En fait, c'est toujours une gradation. C'est-à-dire que, oui, ça commence toujours par des violences psychologiques, verbales. C'est très insidieux. On s'en rend pas tout à fait compte au début. Et plus ça va et plus ça s'intensifie et un jour arrive la violence physique. Et on comprend pas trop parce qu'on est déjà en amour lorsque ça arrive. Donc on est sous le choc, c'est sûr, la première fois qu'on vit de la violence physique. Mais en fait, il y a pas juste la violence physique, psychologique et verbale. Il y a également la violence économique, la violence sociale d'être isolé, de plus avoir de cercle autour de nous, que ce soit des amis ou la famille. On est isolé de tout le monde. Et puis, il y a également la violence sexuelle. On ne se cachera pas que ça aussi, les viols conjugales et tout ça ensemble. Donc, en fait, c'est un peu comme, je dirais, c'est un peu comme une toile d'araignée. On y prise tranquillement, puis en fait, on finit par plus savoir comment s'en sortir.
Mm-hmm. Puis nous, de l'extérieur, Nathalie, on se dit, mon Dieu, 25 ans dans la violence... conjugale, voyons donc, c'est facile de dénoncer, de partir, à juste à prendre ses affaires, s'en aller. Il y a des centres d'hébergement. C'est pas comme ça que ça se passe. De l'extérieur, nous, on pense que c'est facile de quitter, mais ça ne l'est pas. Moi, je pense à toutes les femmes aujourd'hui qui nous écoutent. Mm-hmm. Et puis, on sait en plus que avec le confinement, il y a encore plus de femmes et d'enfants qui sont victimes de violences. Ouais. Nous, de l'extérieur, on se dit, ben, ils ont juste à partir. Qu'est-ce qui se passe pour
qu'on parte? Ça serait le fun que ce soit simple comme ça, mais effectivement, ça ne l'est pas. En fait, j'ai envie de dire que, contrairement à certaines croyances populaires, nous, les survivantes, ben, on n'est pas des masochistes ou des faibles. En fait, c'est tout le contraire. On est des vraies guerrières. Comment je pourrais dire? En fait, c'est multifactoriel les raisons qui font qu'on reste avec un conjoint violent. Évidemment, on a peur pour notre propre sécurité, pour la sécurité de nos enfants.
Oui.
On a peur de ne pas être capable de s'en sortir, c'est-à-dire que, comme par exemple, côté monétaire, moi, j'avais une compagnie avec le père de mes enfants, donc partir, ça voulait dire se retrouver devant plus de travail, plus d'argent. Mais c'est surtout souvent, je dirais qu'à chaque fois que je revenais à la maison, ben, je voulais croire en ses bonnes paroles. J'avais l'impression qu'il était pour changer. Puis on veut y croire, mais en même temps, on n'a comme pas le choix de revenir, de retourner à la maison. Moi, je ne voyais pas de solution. En fait, il n'y a pas de solution parfaite là, pour quand on vit de la violence conjugale. Si on part, ben, on a peur pour la sécurité de nos enfants. Moi, il me disait souvent des petites phrases assassines, comme par exemple, ben, tu sais que je ne peux pas vivre sans toi, mais moi, je sais sans qui tu ne peux pas vivre. Donc, si tu t'en vas, ben, je vais me tuer avec les enfants, des choses comme ça. Ouais. Donc, on a peur de ce côté-là.
Donc, quand les gens, Nathalie, disent elles aiment ça, c'est pour ça qu'elles restent là, ou si elles n'aimaient pas ça, elles s'en iraient. Moi, j'ai entendu ça souvent, ça me...
Oui.
je viens hors de moi. Je pense pas avoir vécu ça pour parler comme ça.
Ouais.
C'est vrai que ces gens-là n'ont aucune idée de ce que vous vivez, vous, de l'intérieur. Puis, tu sais, quand tu parles, on se sent coupable. C'est vrai que ces hommes-là violents menacent de se suicider ou de s'en prendre aux enfants. Puis, on a eu des exemples assez horribles dernièrement. Donc, qu'est-ce que tu fais avec la culpabilité, Nathalie?
Bien, en fait, on est sous l'emprise. On est sous l'emprise du conjoint. Puis la culpabilité, bien, en fait, la honte et la culpabilité, c'est les deux plus grands sentiments dans lesquels on est quand on est dans une relation toxique. Pour se sortir de cette culpabilité-là, de cette honte-là, ben il faut aller chercher de l'aide. Il faut justement aller... Pour moi, c'est les maisons d'hébergement, ils ont fait toute la différence. Puis c'est grâce à eux, si j'ai réussi à m'en sortir. Donc, moi, je suggère vraiment fortement aux femmes d'aller chercher cette aide-là.
Et c'est quand exactement tu as senti que là, il fallait que tu partes? Est-ce qu'il y a un déclencheur? Est-ce qu'il y a un geste? Est-ce qu'il y a une parole? Qu'est-ce que c'est?
Bien, en fait, moi, j'avais l'impression, comme plusieurs femmes vont se reconnaître, d'avoir l'impression de devenir folle. Et dans cette emprise-là, moi, en fait, la journée où est-ce que j'ai eu un déclic, c'est que j'ai réellement pris conscience que monsieur essayait complètement de me rendre folle. Ça serait un peu long raconter l'histoire, mais...
Tu reviendras nous la raconter, ouais. Nathalie. On a une autre émission sur ça.
Oui. Donc...
Donc, l'impression de devenir folle, que tu ne te possèdes plus parce qu'il te joue dans la tête?
Exactement, oui. Ouais, okay. Ouais.
Et au niveau de la violence physique, mm-hmm. Est-ce que ça s'intensifie?
Ah ben oui, bien sûr, ça s'intensifie avec le temps, avec les années. Mm-hmm. C'est de plus en plus fréquent. Pour donner une image, dans les débuts, c'est peut-être deux fois par année qu'il arrive des événements de violence physique. Et à la 25e année, on comptait ça. Je te dirais que moi, j'ai réalisé que sur 7 jours, j'étais bien 2 jours et j'étais 5 jours pas bien, puis à vivre de la violence autant psychologique que physique. Donc, voilà, on perd notre estime de soi, c'est très difficile.
Et toi, il te saute à la gorge, il essaie de t'étrangler.
Oui.
Et est-ce qu'on peut dire que ça a été l'élément déclencheur, puis ça a eu peur à ta peau, tu as eu peur de mourir?
Bien, en fait, cet événement-là s'est produit en 2001. Et c'est comme ça que j'ai su que les maisons d'hébergement existaient, en fait. Mm-hmm. C'est que je me suis sauvée à l'extérieur et finalement, c'est la police qui est venue me voir et ils m'ont apportée dans une maison d'hébergement.
Et après, tu es ressortie de la maison d'hébergement, après combien de temps?
Pour la première fois?
Oui. Oui.
Ah, c'est à peine 24 heures, là.
Ah, OK.
Le sentiment de culpabilité, oui. Puis la peur de pas être rentrée à la maison et de se dire, ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'attendre, là,
ouais,
en revenant,
ouais.
Là.
Donc, tu es revenue par culpabilité, mais en ayant
peur.
Puis
oui.
Par peur.
Oui,
plus surtout. Que par culpabilité?
Bien, les deux, parce mm-hmm. que moi, j'étais partie, je suis sortie pour sauver ma peau, comme tu viens de dire, monsieur avait essayé de m'étrangler, donc je suis sortie de cette façon-là, mais mes enfants étaient restés à la maison,
oui.
Donc c'est sûr que 24 heures après, la culpabilité, le fait que les enfants soient, que je ne sois pas avec mm-hmm. eux, donc c'est
Est-ce
sûr
qu'ils
que...
touchaient aux enfants?
Non, pas
non?
du tout.
Okay.
Non, non, je dirais la violence psychologique.
Oui.
Verbal, oui, mais physique, non.
OK,
non.
C'était toi qui écopais.
Oui, c'était moi qui écopais.
Reste
ouais.
avec nous, Nathalie, on va aller plus en profondeur avec les centres d'hébergement après la pause musicale.
D'accord, merci.
Dans la nuit, une lumière, je retrouve enfin mes rêves. Comme un cri qui se perd, je vois le jour qui se lève. Ma tête tourne dans ce monde à l'envers, mais mon cœur passe à travers. Imagine, et la vie devant toi en couleur illumine l'avenir qui s'écoule. Toi en douceur illumine la terre que tu foules comme un oubli qui me retrouve un trésor trop bien caché, un paradis que je découvre, un pays que je connais. Ma tête tourne dans ce monde à l'envers, mais mon cœur passe à travers.
Un nouveau souffle sur ma planète, une nouvelle mélodie.
Pleine d'espoir, mon âme en fête, on chante enfin sa vie. Imagine, et la vie devant toi en couleur illumine, l'avenir qui s'écoule.
Imagine de Nash et Jeanne Chiral. Je suis en compagnie de Nathalie Trottier, entrepreneure, conférencière, porte-parole de Transit Secours pour la région de Montréal. Donc, Nathalie, avant la pause musicale, on disait que tu étais allée pour une première fois dans un centre d'hébergement, mais après, tu es retournée. Donc, la première fois, tu es restée 24 heures, tu es revenue parce que tu avais peur pour tes enfants. Mm-hmm. Et puis après, tu es retournée. Donc, en tout et partout, tu as fait tu es allée à 8 reprises.
Oui.
Et pourquoi tu y allais, tu revenais? Est-ce que tu restais là plus longtemps?
Bien, c'est sûr que les premières fois, pour ma part, je restais pas tellement longtemps. C'était toujours la culpabilité qui embarquait. Et puis, donc, je retournais à la maison. Puis, à chaque fois aussi, c'était pour les enfants, évidemment.
Quel âge avaient les enfants? T'as 3 fils, hein?
Oui, j'ai 3 fils. Ben, en fait, la première fois, en 2001, les enfants avaient 9 ans, 7 ans et 7 ans, 9 ans et 11 ans.
Quand même,
donc,
c'est jeune.
Oui. Et oui, je suis allée à 8 reprises. La 8e fois, ben, c'était en 2012, qui était la fois où je me suis enfin choisie. Donc, je ne suis pas revenue en arrière. Et cette fois-là, ben, je suis restée 3 mois en maison d'hébergement.
Et les enfants, eux, étaient avec leur père?
En fait, les enfants étaient avec leur père, mais ils étaient rendus adultes.
Ah, OK.
Donc, j'en avais 2 qui avaient quitté la maison, qui étaient en appartement. Et mon cadet avait 17 ans à ce moment-là. Donc, moi, c'était un peu mon plan, là. Je me disais toujours, quand ils vont être grands, ben, je vais pouvoir enfin partir.
Puis, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes qui attendent que les enfants soient plus âgés avant de partir. Qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes-là? Est-ce qu'elles doivent attendre?
Bien, pas nécessairement. En fait, chaque femme, on doit s'écouter. Moi, pour ma part, il n'y a pas de situation parfaite dans le sens que si on reste, bien, après, on réalise que nos enfants ont quand même grandi dans un climat de tension, de voir...
De terreur, des fois. Hein?
Bien, oui, puis surtout de me voir, moi, tout le temps en train de pleurer. Les dernières années, j'étais en dépression profonde. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Donc, leur avoir fait vivre tout ça... Mais partir, pour ma part, c'était les mettre en danger parce que j'avais réellement peur qu'ils mettent à exécution ses intentions de se suicider et d'emmener les enfants avec lui ou toute la famille au complet.
Oui.
Tu sais,
oui.
Moi, quand tu te fais dire écoute, sont où tes chaînes? Si tu veux t'en aller, ben va-t'en, mais c'est à toi de voir si tu as envie de faire la une des journaux.
Ah, oh, wow, OK, c'est de la menace.
Oui, ouais, exactement. Donc, tu y penses à 2 fois. Mm. Mm-hmm. Puis,
qu'est-ce que les centres d'hébergement t'ont apporté, Nathalie?
Ah, mon Dieu, ils m'ont apporté énormément. Ils m'ont aidé dans mon cheminement, ils m'ont accompagné, ils m'ont donné des outils, justement, pour pouvoir m'en sortir. Ils m'ont aidé à retrouver l'estime de soi. Écoutez, moi, vraiment, sans eux, j'aurais pas pu. Moi, j'ai pris tout ce qu'on pouvait m'offrir, que ce soit les suivis externes, sans nécessairement être hébergé.
Oui.
On peut avoir recours à ces services-là, individuels, de groupe. Moi, j'ai pris tout ce qu'on pouvait m'offrir pour cheminer puis Arriver à m'en sortir.
Et c'est difficile parce qu'on n'a plus d'entourage, on n'a plus d'amis, on n'a plus rien parce que ces hommes-là ont fait le vide autour de nous.
Ouais.
Donc, on n'a plus... Ça devient difficile de s'accrocher ou à quelqu'un. Donc, comment on recrée un petit réseau de contact? Est-ce que c'est possible?
Ben oui,
c'est pas... Toi, tu restais une amie, hein?
Oui, c'est possible. Ben, en fait, oui, moi, j'avais ma meilleure amie, Shana. On s'était connus en milieu de travail. Mm-hmm. Mais quand je suis partie en 2012, ça faisait quand même 5 ans que je ne l'avais pas vue, qu'elle n'avait pas eu de mes nouvelles. Et puis un jour, je l'ai appelée et elle, à l'autre bout du téléphone, je vais toujours m'en rappeler parce qu'elle m'a dit « Oh mon Dieu, comment ça va? Je suis contente de t'entendre. » Et moi, je suis juste partie à pleurer. Mm-hmm. Puis elle m'a répondu « OK, t'es où? Je m'en viens te chercher.
Mmh. »
Donc ça, j'aime ça le raconter puis le dire aux gens parce que soyez une Shana dans la vie d'une femme que vous doutez que peut-être qu'elle vit ça. Et surtout, soyez sans jugement. Et puis la journée qu'elle va être prête, bien, elle va savoir qu'elle pourra se tourner vers vous. Puis vous pourrez la rediriger vers les ressources, que ce soit les maisons d'hébergement.
Ou je veux que tu nous parles, Nathalie, parce que tu es quand même porte-parole de Transit Secours. Dis-nous ce que c'est, Transit Secours. C'est un nouveau service, hein?
Oui. En fait, Transit Secours a vu le jour à Toronto.
Mm-hmm.
C'est un homme, Marc-Ol Jacquin, pardon, qui a parti ce service-là. En fait, c'est un organisme sans but lucratif qui est chapeauté par une belle équipe de bénévoles. On offre des services de déménagement et d'entreposage totalement gratuits. On peut également avoir recours quand on fait un déménagement, s'il y a un degré de dangerosité, la police peut nous assister ou bien des gardes de sécurité.
Mm-hmm.
Et puis, on peut avoir des services de linguiste et également pour les animaux. Parce que
c'est
souvent...
intéressant, le service de linguiste.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, en fait, ont des problèmes à s'exprimer en français ou ne le font pas du tout.
Oui, oui.
Très intéressant.
Oui. Puis pour les animaux également, parce que souvent les femmes...
on ne veut pas laisser leur chien.
Ben non, on veut pas les laisser. Moi, dans mon cas, c'est arrivé que je suis partie, puis 5 jours après, je suis revenue, puis il avait donné mon chien. Donc, fait que des fois, les femmes,
c'est la raison, votre raison de vivre.
Exact. Ben, ça fait partie de la famille.
Oui,
on n'ose pas quitter à cause de ça. Donc, nous, on fait affaire, on a des partenariats avec des services pour les animaux. Donc, et tout ça est gratuit.
Mm-hmm.
C'est complètement gratuit. Et on ne se cachera pas aussi que souvent, quand les femmes quittent un conjoint violent, elles perdent tout.
Oui.
Comme dans mon cas, moi, j'ai tout abandonné. Mais en fait, j'ai gagné ma liberté, fait que ça n'a pas de prix.
Oui.
Mais...
t'es repartie à zéro.
Je suis repartie à zéro. J'avais plus rien. J'avais à peine 100 $ en poche quand moi, j'ai quitté.
Mm-hmm.
Mais le service d'entreposage, ça donne l'occasion d'une femme qui est en... En fait, il faut absolument avoir un pont entre la victime et Transit Secours. C'est-à-dire que soit une intervenante, les policiers, ça peut être le CLSC.
Et ce service-là aussi est gratuit.
Oui, totalement, totalement gratuit.
Et est-ce que ce service-là, Transit Secours, vient... Avant le centre d'hébergement ou après, dans l'étape de je veux sortir de la violence physique,
je dirais,
ça arrive où, ce service-là?
Quand on est hébergé, en fait, on peut pas dire je vais appeler Transit Secours, demander leur service. Il faut vraiment qu'il y ait une intervenante qui fait le pont entre la victime et... pour avoir le service.
Et c'est l'intervenante qui va proposer à la victime ou c'est la victime qui doit demander à l'intervenante pour avoir ce service-là?
Ça peut être les deux, en fait. Ça peut être les deux, mais c'est bien que les femmes le demandent, en fait, parce que comme on est vraiment nouveau depuis cet automne, ça se peut-être qu'il y ait des intervenantes qui ne soient pas encore au courant qu'on peut offrir ce service-là. Donc, les femmes... doivent le savoir que ça existe. Là.
D'accord. Et est-ce que c'est seulement parce que toi, tu es porte-parole pour la région de Montréal? Est-ce que c'est à travers le Québec? Est-ce que c'est à travers le Canada, ce service-là?
En fait, c'est à travers le Canada. Le service à Montréal, c'est tout récent depuis cet automne.
Oui.
C'est le seul pour l'instant au Québec. Ça serait vraiment génial qu'on puisse s'étendre un peu partout au Québec. Mais c'est vraiment à portée nationale. C'est-à-dire que ça a débuté à Toronto, maintenant à Ottawa, Vancouver, certains endroits à travers le Canada.
Ça veut dire qu'une femme de Québec peut demander... Transit de secours à Montréal. Est-ce que ça dessert seulement la région de Montréal?
Pour l'instant, c'est seulement que la région de Montréal, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment avec des bénévoles.
Oui.
Donc, moi, je fais un appel à tous. Si vous avez envie d'être bénévole, je vous invite à contacter Transit de secours région Montréal. Vous pouvez aussi aller voir sur la page Facebook.
Oui.
Et puis, on en a toujours besoin de bénévoles dans différentes sphères.
Bien sûr. Et Nathalie, qu'est-ce que tu voudrais dire aux femmes aujourd'hui qui se disent peut-être c'est pas si pire que ça, la semaine passée il a été faim, tu vois qu'elles continuent à hésiter ou à avoir espoir que leur conjoint violent va changer ou qu'elles ont peur, qu'est-ce que tu leur dirais, Nathalie?
Je leur dirais de choisir. Je sais que c'est pas facile.
Surtout quand on ne sait plus ce qu'on veut, hein?
Non, c'est ça. Puis c'est très difficile de choisir, mais moi, je vous dirais de ne pas attendre 25 ans. C'est important de choisir, de quitter. Un homme violent, ça restera toujours un homme imprévisible. Et si vous décidez de quitter, écoutez, ne lui dites pas à l'avance. Appelez SOS Violence Conjugale, appelez dans une maison d'hébergement. Ils vont vous donner des scénarios de protection. Ça, c'est très, très important. À ne pas sous-estimer. Des fois, on va se dire, non, il n'ira pas jusqu'à là, mais mieux vaut être plus prudente que pas assez. Donc, allez chercher, allez dans les ressources, allez chercher de l'aide. Ils vont vraiment vous aider, ils vont vous guider, ils vont vous aider pour la garde de vos enfants, ils vont vous accompagner à la cour, ils vont vous aider à vous relocaliser, à retrouver un appartement, etc. Donc,
merci infiniment, Nathalie Trottier. Quelle belle générosité. T'as aidé beaucoup de femmes aujourd'hui, j'en suis certaine.
Merci.
Donc, Nathalie Trottier, qui est porte-parole de Transit de secours pour la région de Montréal. Merci, restez avec nous. Après la pause, nous parlons avec Marie-Christine Plante.
Vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
Vous pouvez écouter nos émissions sur le site Internet de Canal M, sur vuesetvoix.com et en balado. En deuxième partie de l'émission, je reçois Mme Christine Plante, adjointe à la direction à Carrefour pour elle, un centre d'hébergement. Elle est aussi chargée de cours à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Restez avec nous.
On s'ennolait chez nous comme ça. Dans nos jungles, le calme plat. Il a déboulé dans le soir en disant mes mal sont encore au port. Moi j'étais larguée, classée. Elle était bouche bée et lui c'était Robert Taylor. Comme dans ses nouvelles pour dames de Somerset Maugham. Ils sont faits pour deux, c'est bon bout. Crois là-dedans, ça va plus du tout. Il avait gagné la cup, fumé Navy Cut, claqué les tirelires. Quand elle enlevait sa main de ma main, ses yeux de mes yeux, ça me faisait souffrir. Comme dans ses nouvelles pour dames de Somerset Maugham.
s'en aille, de quoi j'ai l'air. Avec mes détails, mes haltères. Il portait des lions sur le dos, pour elle comme cadeau. Ça salissait tout. Moi je me sentais vieillot, fidèle, propriétaire d'elle. Capitaine Beau, lâchez-moi. Les femmes sont sensibles à tout ça. Laissez-nous tranquilles, basket, chocolat, noisette, sur notre canapé. Allez, Somerset, ailleurs, cassez les autres.
Nous écoutions Karen Ann, Somerset Maugham. Je rappelle le thème d'aujourd'hui, centre d'hébergement pour sortir les femmes de la violence. Donc, nous sommes de retour avec Mme Marie-Christine Plante, adjointe à la direction à Carrefour pour elle, un centre d'hébergement. Bonjour, Mme Plante. Bienvenue à Terre de femmes.
Mais merci, merci de m'avoir invitée.
Ah, c'est un pur plaisir. Merci d'avoir accepté. On a besoin de femmes comme vous pour nous expliquer un peu comment fonctionne le centre, les centres d'hébergement. Donc, depuis 2012, vous êtes adjointe à la direction du centre d'hébergement. On peut le dire, hein, c'est à Longueuil.
Oui, tout à fait. Carrefour pour elle existe depuis 1975. On est situé à Longueuil, mais notre territoire nous couvre de Longueuil jusqu'à Contrecoeur en passant par Saint-Amand-Sainte-Julie. Donc, quand même un grand territoire, mais ceci étant dit, je travaille en maison d'hébergement, puis peut-être expliquer à vos auditeurs et auditrices c'est quoi une maison d'hébergement.
Absolument. Est-ce que c'est la même chose qu'un centre d'hébergement? Maison-centre,
oui,
c'est la même chose,
oui.
D'accord.
Oui, exactement, c'est la même chose, sauf que généralement, nous, on va plus utiliser maison parce que on veut justement que ça soit un lieu d'accueil inconditionnel, un lieu chaleureux aussi. Donc, on va utiliser peut-être plus la notion de maison d'hébergement.
Ah, d'accord.
Donc, on est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Mm-hmm.
L'adresse est confidentielle pour des raisons, bien sûr, de sécurité. Donc, la meilleure porte d'entrée pour venir à Carrefour pour elle, ben, c'est le téléphone. Donc, on offre de l'écoute téléphonique, nous, à tous les jours, soir, nuit. C'est possible de rejoindre une intervenante qui va répondre, qui va prendre le temps d'écouter, de donner les informations, d'évaluer les demandes d'hébergement quand il y en a. Et donc, on offre aussi d'autres services comme, bien sûr, l'hébergement.
Mm-hmm.
Dépendamment des capacités d'accueil de chaque maison d'hébergement, comme nous, à Carrefour pour elle, on a 9 chambres.
Oui.
7 chambres pour des familles et 2 chambres
avec les enfants, donc?
Exactement, exactement. Des mères qui viennent avec leurs enfants. Mm-hmm. Et sinon, on a deux chambres pour femmes seules. Puis sinon, ben, on va offrir, bien sûr, des services d'intervention. Hein, tout ce qui est le suivi individuel lorsque la femme est en hébergement, de l'accompagnement dans différentes démarches qu'elle a à faire dans la communauté. Ou encore, on offre des groupes de soutien pour les femmes en externe qui n'ont pas besoin de venir en hébergement, mais qui veulent cheminer et sortir de leur dynamique de violence conjugale.
Mm-hmm.
Et ça va aller jusqu'à des services, des ateliers de prévention qu'on va faire dans les écoles, également dans les écoles secondaires ou auprès des classes de francisation, par exemple.
D'accord. Et dites-moi, les maisons d'hébergement, est-ce que ce sont seulement pour, pas seulement, mais uniquement pour les femmes qui sont victimes de violences physiques? C'est-à-dire qu'une femme qui est victime de violences psychologiques, est-ce qu'elle peut avoir de l'aide?
Oui. Exactement. On aime dire, on fait pas de hiérarchie au niveau des formes de violence vécues. Vraiment, là, une maison d'hébergement, c'est pour toutes les formes de violence, que ce soit de la violence psychologique, verbale, sexuelle, économique, sociale ou encore physique. Donc, vraiment, pour toutes celles qui, à un moment donné, vont réaliser que la violence vécue ou perpétuée par leur conjoint entraîne des conséquences dans leur vie ou dans la vie de leur enfant. Mm-hmm. Et c'est, généralement, c'est lorsqu'elles ont un déclic, lorsqu'elles ont des conséquences généralement sur leur santé physique ou mentale qu'elles vont faire appel à nous là, ouais. pour venir chercher de l'aide.
Oui, ça, on va y revenir un peu plus tard. Je voudrais ouvrir une parenthèse parce qu'en début d'émission, j'ai annoncé l'aide du gouvernement d'injecter 180 millions de dollars pour lutter contre la violence conjugale. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va ressembler à quoi l'application de cet argent-là?
Dans les faits, dépendamment des maisons d'hébergement, il ne faut pas s'attendre. On ne peut pas dire qu'on est devenu riche avec cette annonce-là. Là. Grosso modo, on parle, oui, d'une bonification de notre subvention, mais on ne peut pas dire qu'on vient consolider certains services, mais il y a encore vraiment du travail à faire pour financer adéquatement la mission globale des maisons d'hébergement au Québec. Hein. Puis il faut savoir, il y a plus d'une centaine de maisons d'hébergement.
Oui, c'était ma question. Il y en a combien? Une centaine?
Il y a au moins, selon le gouvernement, là, on est à près de 140 ressources d'hébergement pour femmes violentées.
D'accord. Et j'imagine qu'il y en a aussi à l'extérieur du Québec.
Oui, tout à fait. On trouve des ressources partout au Canada. Le financement va venir aussi du fédéral pour les maisons d'hébergement anglophones et canadiennes. Là.
D'accord.
Donc, c'est ça. C'est, on voit quand même, il y a eu une augmentation. Il y a des bienfaits à l'aide gouvernementale. Ceci étant dit, on ne se cachera pas, on est quand même en pourparler encore avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour être financé adéquatement parce que il faut un des enjeux qu'on entend souvent parler dans les médias, justement, c'est le manque de place en maison d'hébergement,
oui,
par exemple.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui arrive quand il y a une femme qui vous contacte et puis vous n'avez pas l'espace?
Exactement. Donc, dans ce temps-là, on essaie de la référer dans d'autres maisons d'hébergement qui sont à proximité. Mais là aussi, souvent, les maisons sont à pleine capacité. Et donc, on réfère, ou puis des fois, c'est malheureux, on est obligé de dire à une femme, bien là, bien sûr, si vous êtes en danger, vous appelez le 911, là. Mais des fois, pour certaines, c'est de dire, bien, je vais attendre, je vais rester avec mon conjoint, puis quand il y a une place qui va se libérer, je vais venir dans quelques jours. Donc, on s'entend que c'est pas l'idéal.
Non.
Et d'où l'importance qu'on ait un financement adéquat pour pouvoir développer des nouvelles places dans nos maisons d'hébergement ou même des nouvelles maisons d'hébergement.
Mmh. Et est-ce que ces femmes-là qui disent « je vais revenir dans quelques jours » reviennent dans quelques jours?
Certaines, oui. Certaines, des fois, par contre, vont se trouver une alternative d'aller chez un proche, une proche, un membre de leur famille. Mm-hmm. Puis en même temps, bien, pour certaines, il y a des risques d'itinérance aussi. On a vu des femmes qui ont dû quitter, aller coucher dans leur voiture, aller coucher chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas pour avoir un divan mm-hmm. ou même de coucher en dessous d'un balcon. On a vu plein de situations vraiment très, très déplorable où vraiment le manque de place faisait en sorte que les femmes, pour quitter un conjoint violent, se mettaient dans des situations elles-mêmes de danger.
Oui, c'est ça. Dites-moi, est-ce que le fait qu'il manque de place dans les centres d'hébergement n'est pas quelque chose qui peut justement décourager les femmes à demander de l'aide?
Oui, tout à fait, exactement. Puis c'est sûr que c'est une barrière de plus. On se cachera pas aussi pour certaines femmes de se dire « je m'en vais en ressources d'hébergement avec des inconnus, vivre dans un milieu de vie où il y a près des fois de 5 à 10 femmes plus les enfants, ça peut rebuter certaines d'entre elles. Mm-hmm. » Puis en plus de ça, la COVID, actuellement, la COVID est une barrière psychologique de plus parce qu'on a la crainte de contracter le virus. Oui. Donc, oui, pour certaines, c'est sûr, c'est un frein, le manque de place. Hein. Quand, tu sais, quand on est prêt, des fois, à faire quelque chose, avoir l'opportunité de le faire au moment où on est prêt, c'est sûr que c'est aidant. Là.
Oui, puis c'est ça, je pense que ce sont des décisions qui se prennent quand même, bon, je dirais pas de manière... Comment je pourrais dire, spontanée, parce que ça fait quand même des années qu'elles sont dans une situation physique précaire, mais la journée où elles décident de partir, je pense que ce serait important qu'il y ait une porte ouverte, parce que ça peut passer, puis la semaine d'après, elles ne sont plus décidées.
Exactement, tout à fait. Puis en même temps, je dirais, il y a aussi le risque, souvent, des fois, leur intégrité physique et psychologique continue d'être compromise. Et ça, c'est vraiment un problème parce qu'on le sait, il y a quand même plusieurs tentatives de meurtre à chaque année au Québec. Entre ce qu'on connaît de la police et ce qu'en même temps, ce que les femmes qui ne portent pas plainte nous rapportent, c'est très, très, très questionnant, en plus des homicides conjugaux qui, eux, on est capable de quantifier à chaque année. 15 femmes vont mourir à chaque année au Québec. C'est dramatique.
Oui, oui, c'est beaucoup trop. Et dites-moi, avez-vous une petite idée de combien, c'est quoi le pourcentage de femmes qui ne portent jamais plainte?
On parle facile. Oui, on le connaît en agression sexuelle, là, mais c'est pratiquement 95% des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles qui ne portent pas plainte. En violence conjugale, on est pas mal dans les mêmes eaux, je dirais pratiquement 90% des femmes qui vivent la violence conjugale ne portent pas plainte.
Oui, c'est atroce. Donc, restez avec nous, Madame Plante. On continue après la pause musicale.
Avec plaisir.
Je suis bien avec toi, même si je ne suis pas vraiment tactile. Quand on marche côte à côte, ça me va. Je sais pourtant que c'est pas facile pour toi. Je vais te le dire, mon chagrin, celui que j'ai sur le corps et le cœur. Parce que j'ai confiance en moi, enfin, et qu'elles ne me font pas peur, tes mains. J'ai le mal amour, le mal amour, souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. J'ai le mal amour, le mal amour, c'est un amour aveugle et sourd qui blesse. T'as vu l'hiver est en avance, le froid, ces feuilles qui tombent à l'appel, et ces branches nues sans défense, je crois, qu'elles me font signe et me rappellent cette fois, où sous mes pas son escalier craquait, moi devant sa porte bleu pâle. Ce bleu qu'on se fait quand on se fait mal, je frappais, heureuse, craintive ou un peu les deux. J'ai le mal amour, le mal amour, souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. J'ai le mal amour, le mal amour, c'est un amour aveugle et sourd qui blesse. Il m'attirait comme un aimant, moi la mal aimée, lui le mal amant. Si je n'avais pas touché le sol, ce jour-là je serais devenue folle. Je n'ai plus honte, il faut que tu saches assez de toutes les plaies que l'on cache. Et de tous les cris que l'on garde en soi, tout ce mal qu'on se fait par amour. Adieu le mal amour, le mal amour, souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal amour, le mal amour, c'est un amour aveugle et sourd qui blesse. Adieu le mal amour, le mal. dire des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal amour, le mal amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse.
Barbara Pravi, le mal amour. De retour avec Madame Marie-Christine Plante, adjointe à la direction de Carrefour pour elle, une maison d'hébergement. Donc, Madame Plante, on s'est laissé en disant qu'il y avait beaucoup de femmes qui, en fait, qui ne portaient jamais plainte. Il y a une chose aussi que moi, j'ai entendue, qui disait que, le pire ennemi pour les gens qui travaillent dans des maisons d'hébergement, en fait, c'est le cellulaire à cause du fameux GPS qui est intégré. Oui.
Tout à fait, c'est un enjeu actuellement. Toute la question de la géolocalisation, là, il y a plusieurs conjoints qui ont des comportements violents, qui vont utiliser justement ces formes de violence sociale-là, de pouvoir suivre leur conjointe ou ex-conjointe. Donc, nous, ça fait partie des choses maintenant quand même. On s'est sensibilisé, on n'a pas eu le choix. Et on demande aux femmes, avant de venir en maison d'hébergement, de regarder justement en termes d'application s'il n'y aurait pas la fonction géolocalisation d'activité. Et même lorsqu'elles arrivent en maison d'hébergement, on se doit de revérifier à nouveau avec la femme pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Parce que oui, c'est déjà arrivé des situations vraiment désastreuses où un conjoint identifie que la femme est présentement en maison d'hébergement. Et oui, ça peut être dangereux pour l'ensemble des femmes et des enfants qui sont là, ainsi que les travailleuses dans ce temps-là. Et c'est un peu plate. Quand ça arrive, on est obligé de relocaliser dans une autre maison.
Oui.
La femme et ses enfants. Donc, oui, c'est le mal de notre siècle. Hein. Autant qu'on aime nos téléphones,
oui.
que ça devient des outils de contrôle dans bien des cas.
Oui, c'est ça, pour le meilleur comme pour le pire. Et vous n'avez pas envie ou ne voulez pas leur retirer le cellulaire parce que c'est quand même le seul contact qui leur reste avec l'extérieur.
Exactement. Tout à fait. Il y a certaines maisons qui vont le faire, mais nous, à l'interne,
ah oui?
On n'a pas fait ce choix-là. Oui.
OK, il y a certaines maisons qui choisissent.
Certaines maisons vont demander de ranger le téléphone et de le fermer lorsqu'elles sont dans la maison d'hébergement.
Est-ce que ça fonctionne?
Oui, je pense que, ben oui, chaque maison est autonome dans ses choix et dans ses règles qu'elles vont mettre.
Mm-hmm.
J'imagine que ça doit fonctionner pour celles qui ont fait ce choix-là à l'interne, mais nous, c'est pas une direction qu'on mm-hmm. a décidé de prendre. On est plus dans la sensibilisation auprès des femmes, là.
D'accord. Et puis, les bracelets électroniques, qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que c'est une
bonne idée, ça?
Ben, je pense que ça peut être une bonne idée qui va être intéressante. Reste à voir comment elle va être balisée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Mais ceci étant dit, je pense que ça peut être d'ailleurs, oui, ça peut venir diminuer peut-être les moments où qu'un ex-conjoint voudrait contrôler, ne respecterait pas ses conditions vis-à-vis son ex-femme ou ex-conjointe, là. Donc, je pense que ça pourrait venir aussi garantir un peu plus de sécurité chez des hommes qui ont démontré qu'ils pouvaient avoir des récidives en matière de comportement violent. Donc,
mm-hmm.
Ça, je pense que c'est vraiment un dossier qui va être suivi principalement par notre Fédération des maisons d'hébergement ou encore le regroupement des maisons d'hébergement. Mais ça fait partie d'une des solutions intéressantes, comme au même titre qu'avoir un tribunal spécialisé
oui.
en matière de violence sexuelle ou violence conjugale.
Mm-hmm. Oui, on s'en va, en tout cas, on espère qu'on s'en va vers le mieux. À quoi
oui.
ressemble, Mme Plante, le quotidien d'une femme qui est en maison d'hébergement?
Je dirais dans un premier temps, lorsqu'elle arrive en maison d'hébergement, elle a la possibilité de pouvoir, comme on dit, se déposer, se reposer, reprendre un petit peu le contrôle sur sa vie, faire diminuer le stress, répondre à des besoins essentiels comme recommencer peut-être à manger 3 fois par jour, à dormir, s'occuper un peu plus de ses enfants sans être stressée, etc. Donc je pense que l'arrivée dans une maison d'hébergement ressemble à ça. Puis en même temps, elle est soutenue par les autres femmes qui sont déjà en maison d'hébergement, d'accord, et aussi par les intervenantes qui sont là pour lui offrir du suivi dans ses démarches. Pour plusieurs, il y en a qui travaillent, donc ils vont continuer à travailler, donc elles peuvent sortir, aller travailler, revenir, etc. Mm-hmm. Pour d'autres qui sont présentement sans emploi ou en congé de maladie, donc elles vont focusser un peu plus sur elles ou leur enfant aussi. Donc,
est-ce qu'il y a des activités à l'interne?
Il y a des activités, il y a quelques activités, il y a une rencontre d'intervention par semaine minimalement avec leur intervenant.
D'accord.
Et sinon, il y a une autre activité, c'est une activité d'intervention de groupe le mardi soir qui va se faire avec l'ensemble des femmes hébergées. Et là, ils vont travailler sur différentes thématiques pour justement retrouver confiance en elles, travailler l'estime de soi, l'affirmation, reconnaître les comportements des manipulateurs, etc. Là, c'est le genre de thématiques qui pourraient être abordées dans ces rencontres de groupe-là. Sinon, ben, des fois, il va y avoir des cafés rencontres, des choses de même sur une base plus ponctuelle, mais il y a quand même une grande, une grande liberté où c'est en maison d'hébergement. Là.
Oui.
C'est pas un refuge, c'est pas une prison, c'est vraiment une maison avec des chambres. On respecte l'intimité aussi. Elles ont leur espace pour elles. Il y a les espaces communs, il y a la salle de jeu pour les enfants.
Oui, c'est ça. Les enfants aussi ont des activités.
Exactement. Les enfants, eux, ont accès à des activités parce qu'ils ont la chance d'avoir Nathalie qui est à la salle de jeu, donc qui va animer des activités avec les enfants, principalement des enfants qui ne sont pas à l'école, donc les enfants de 5 ans et moins vont avoir accès justement à une belle grande salle de jeu avec plusieurs activités dirigées ou non. Donc ils ont un bel espace pour pouvoir faire leur vie d'enfant.
Mm-hmm. Et ils continuent à aller à l'école aussi?
Oui,
okay.
La majorité, ceux qui vont à l'école, ils vont aller à l'école à moins qu'il y ait un enjeu de sécurité qui nécessite que, compte tenu que tout ce qui a trait à la garde des enfants et n'est pas réglé encore, ce qui fait en sorte que des fois, peut-être pour un délai, en attendant que l'enfant, des fois, soit relocalisé dans une nouvelle école, ils vont rester à la maison d'hébergement pour des raisons de sécurité.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous pourriez dire, Mme Plante, à ces femmes-là qui hésitent, qui se demandent « est-ce que je dois partir? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? »
Moi, je pense que, en tout cas, je les invite à nous appeler dans un premier temps, juste pour prendre le temps de briser le silence, de poser leurs questions, de démêler des fois la confusion qu'on peut avoir au niveau de nos émotions, de nos idées. Et il n'y a aucune obligation justement à venir en maison d'hébergement ou encore à aller porter plainte à la police, mais on peut quand même appeler pour juste parler, parce que parler, on le sait que ça peut faire du bien. Et donc, nous, ce qu'on va offrir, c'est soit l'écoute téléphonique à toute heure du jour ou encore, au besoin, on peut même y offrir juste une rencontre, ce qu'on appelle, nous, une rencontre éclair, où on se rencontre face à face ou par Zoom ces jours-ci en temps de COVID. Pour justement démêler, répondre à des questions, parler du cycle de la violence, des différentes formes de violence vécues. Donc, je dirais premièrement, dans un premier temps, il y a cet aspect-là, de ne pas hésiter
et
à
si aller une femme,
dans une maison d'hébergement.
Excusez-moi de vous couper, Mme Plante, mais si une femme ne peut pas, est toujours avec le conjoint, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut appeler pour elle pour prendre contact ou pour dénoncer ou pour est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire?
Oui, bien, tout à fait. Ça arrive souvent même, d'ailleurs, qu'on a des téléphones de membres de l'entourage qui nous appellent pour justement prendre des informations, pour être capable après ça de donner ces informations-là à la personne qui vit de la violence. Donc
on demande aussi à l'entourage de garder l'œil ouvert pour protéger
ces
femmes-là. Hein?
Mm-hmm. Oui, parce que justement, le conjoint va tout faire pour isoler généralement la victime. Alors, quand on sait qu'une personne vit de la violence dans son entourage, que ce soit une proche ou que ce soit une voisine, il faut rester vigilant et il faut garder le lien avec cette personne-là. Et dans toute situation de danger, moi, je vous invite à appeler le 911. Du moment qu'on craint pour la sécurité ou qu'on craint pour la vie d'une personne, alors là, il faut appeler le 911.
D'accord. Ben, merci infiniment. Ça a été très éclairant, votre intervention aujourd'hui. Alors, c'est tout le temps que nous avons. Un immense merci à nos invités, Marie-Christine Plante, adjointe à la direction à Carrefour pour elle, et à Nathalie Trottier, porte-parole de Transit Secours pour la région de Montréal. Merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation d'Ida Christie. Un regard, un sourire, une main tendue suffisent parfois pour redonner le courage de continuer notre chemin dans la vie. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.